Un ange vint à moi et dit, ô jeune homme, ô pitoyable et cervelé, ô l'atroce, ô le terrible état, considère le cachot incandescent que tu te prépares pour l'éternité tout entière et la course qui t'y mène. Je dis, peut-être consentiras-tu à me montrer mon lot éternel, nous le contemplerons ensemble et nous verrons lequel, de ton lot ou du mien, est le plus désirable. Il me fit alors traverser une écurie, puis une église, puis nous descendîmes dans la crypte de l'église au fond de laquelle se dressait un moulin. Nous traversâmes le moulin pour arriver à une caverne. Nous descendîmes les méandres de la caverne et poursuivîmes notre laborieux chemin jusqu'à ce qu'apparut au-dessus de nous un vide que rien ne bornait, comme un ciel d'en bas, et nous nous retenions aux racines des arbres, suspendu au-dessus de l'immensité. Mais je dis, si tu le veux bien, remettons-nous-en à ce vide et voyons si là aussi se cache la providence. Si tu ne le veux pas, moi je le veux. Mais il répondit, ne te montre pas présomptueux. Restons ici et contemplons ton lot qui apparaîtra sitôt l'obscurité dissipée. Aussi je restai près de lui, assis dans la racine d'un chêne noueux. Lui se tenait en suspens dans un champignon qui balançait tête en bas au-dessus du gouffre. Petit à petit nous distinguâmes l'abîme infini, flamboyant comme la fumée d'une ville en proie à l'incendie. Sous nos pieds, à une distance immense se trouvait le soleil, noir, mais brillant. On voyait autour de lui des sillages flamboyants sur lesquels évoluaient d'énormes araignées. Elles rampaient vers leur proie qui volait, ou plutôt nageait dans l'abîme infini, sous les formes très terrifiantes d'animaux surgis de la corruption, et l'air en était plein et en semblait composé. Ce sont les démons, et on les appelle puissances de l'air. Je demandai alors à mon compagnon quel était mon lot éternel. Il dit, entre les araignées noires et blanches. Mais alors, d'entre les araignées noires et les blanches, éclata un nuage de feu qui roula à travers l'abîme, obscurcissant toute chose au-dessous, de sorte que les profondeurs du gouffre devinrent noires comme un océan et roulèrent dans un vacarme effroyable. Nous ne voyons plus rien au-dessous de nous qu'une noire tempête, jusqu'à ce qu'à l'est, entre vagues et nuages, nous apercevions une cataracte de sang et de feu mêlé. À quelques jets de pierre de nous, apparut puis replongea le repli écailleux d'un monstrueux serpent. Pour finir, à quelques 3 degrés est de distance, une crête flamboyante apparut au-dessus des vagues. Lentement, elle se dressa comme une chaîne de rochers dorés, jusqu'à ce que se découvre à nos yeux de globe d'un feu cramoisi, d'où la mer se retira en nuages de fumée. Nous vîmes alors que c'était la tête de Léviathan. Son front se divisait en stries vertes et pourpres, comme celles qu'on voit sur le front des tigres. Bientôt nous vîmes sa gueule et ses branches rouges qui pendaient juste au-dessus de l'écume en furie et donnaient au noir de l'abîme des teintes de faisceaux de sang. Il avançait dans notre direction avec toute la fureur d'une existence spirituelle. Mon âme et l'ange grimpa de son poste à l'intérieur du moulin. Je restai seul, et cette vision avait alors disparu, et je me retrouvai assis sur la berge d'une aimable rivière au clair de lune à écouter un harpiste qui chantait au son de sa harpe. Sa rengaine disait, « L'homme qui jamais ne change d'opinion est comme une eau stagnante, il donne naissance aux reptiles de l'esprit. » Mais je me levai et cherchai le moulin, où je trouvai mon ange qui, surpris, me demanda comment je m'étais échappé. Je répondis, « Tout ce que nous avons vu était le produit de ta métaphysique, car lorsque tu as détalé, je me suis retrouvé sur une berge au clair de lune, à écouter un harpiste. Mais maintenant que nous avons vu mon lot éternel, te montrerai-je le tien ?» Ma proposition le fit rire, mais soudain, je le pris de force dans mes bras et nous nous envolâmes vers l'ouest à travers la nuit, jusqu'à nous élever au-dessus de l'ombre de la terre. Alors je me jetai avec lui tout droit dans le corps du soleil. Alors je me vêtis de blanc, et en poignant les volumes de Swedenborg, je descendis cette région glorieuse, et dépassai toutes les planètes, jusqu'à ce que nous fussions à Saturne. Là je me reposai quelque temps avant de sauter dans le vide qui sépare Saturne des étoiles fixes. « Voici ton lot, lui dis-je, dans cet espace, si on peut appeler cela un espace. » Bientôt nous vîmes l'écurie et l'église, et je le menai à l'hôtel où j'ouvris la Bible. Et voici qu'elle ouvrait sur une dépression profonde où je descendis en poussant l'ange devant moi. Bientôt nous vîmes cette maison de briques, nous pénétrâmes dans l'une. Nous y trouvâmes nombre de singes, de babouins, et tous de cette espèce, enchaînés par la taille, montrant les dents et s'agrippant l'un à l'autre, empêchés cependant par de trop courtes chaînes. Je vis pourtant qu'ils devenaient par moments plus nombreux, et les forts alors s'emparaient des faibles, et s'accouplaient à eux en grimaçant, avant de les dévorer en leur arrachant un membre après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus du corps qu'un misérable tronc. Tronc qu'ils embrassaient d'abord avec des sourires de feinte tendresse, avant de le dévorer lui aussi. En posant mon regard ici et là, j'en vis un qui arrachait avec appétit des morceaux de chair de sa propre queue. Comme la puanteur nous incommoda tous deux terriblement, nous rentrâmes dans le moulin, et je portais dans la main le squelette d'un corps qui dans le moulin devint les analytiques d'Aristote. Alors l'ange dit, « Ta vision m'a trompé, et tu devrais avoir honte. » Je répondis, « Nous nous trompons l'un l'autre, et c'est perdre son temps que de converser avec toi, dont les œuvres ne sont qu'analytiques. » L'opposition est la véritable amitié. J'ai toujours trouvé de la vanité chez les anges qui parlent d'eux-mêmes comme des seuls sages. Ils le font avec une insolence pleine de confiance, dont la racine est le raisonnement systématique.
Peace and understanding.
Bonjour, c'est Pierre-Félix Gravière, je suis à Paris, dans le 19e, il fait très beau. Et je vais lire la cinquième nouvelle de la quatrième journée, qui s'appelle « Le basilic salernitain ». Il y avait autrefois à Messine trois frères, marchands, qui demeurèrent très riches après la mort de leur père né à San Gimignano. Ils avaient une sœur, jeune, belle et bien faite, nommée Isabeau, qu'ils n'avaient pas encore mariée, quoiqu'ils en eussent souvent trouvé l'occasion. Ils avaient aussi, pour garçon de boutique, un jeune homme de Pise, nommé Laurent, sur qui roulaient presque toutes les affaires de leur négoce. Ce commis était d'une figure agréable et d'un caractère plein de douceur. La charmante Isabeau en devint amoureuse. Laurent s'en aperçut, en fut très flatté, et renonça, pour sa nouvelle conquête, à ses autres maîtresses. Comme ils étaient à portée de se voir et de se parler fort souvent, ils ne furent pas longtemps à se donner des preuves de tendresse. Le commencement de leur intrigue fut accompagné de tout le succès et de tout le secret qu'ils pouvaient désirer. Mais enfin, Le malheur voulut que l'aîné des trois frères rencontra Isabeau une nuit qu'elle allait trouver son cher Laurent dans sa chambre. Le jeune homme, quoique irrité de la conduite de sa sœur, dont il n'avait point été aperçu, sut se contenir et attendit jusqu'au lendemain pour faire part de sa découverte à ses frères. Après s'être bien consultés, ils résolurent de supporter secrètement un affront dont ils ne pouvaient interrompre le cours sans se venger et dont ils ne pouvaient tirer vengeance sans déshonorer leur sœur. Ils se couvrirent eux-mêmes de honte. Ils espéraient que le moment de pouvoir remédier à ce désordre sans se compromettre ne tarderait pas à se présenter. Ils feignirent donc de tout ignorer et se conduisirent avec Laurent comme à l'ordinaire, afin qu'il ne comprît point qu'il s'était aperçu de son intrigue. Cependant, comme le commerce de galanterie allait toujours son train et qu'il pouvait en résulter des suites fâcheuses pour leur sœur, ils se lassèrent d'attendre et prirent le parti de le rompre pour jamais. Dans cette idée, ils engagèrent un jour leur commis à aller se promener avec eux hors de la ville. Arrivés dans un lieu extrêmement solitaire, ils se jetèrent tout à coup sur lui et le poignardèrent, sans qu'il eût le temps de faire la plus petite résistance. Après l'avoir enterré sans être vu de personne, ils retournèrent à Messine, où ils firent courir le bruit qu'il l'avait éloigné pour les affaires de leur commerce. On le crut d'autant plus facilement qu'il leur était souvent arrivé de l'envoyer en divers endroits. Et comme il ne revenait pas, Isabeau, qui ne s'accommodait point de son absence, ne cessait de demander à ses frères quand est-ce qu'il serait de retour. Un jour qu'elle le demandait très instamment, « Que signifie donc ceci ?» lui dirent de ses frères. « Qu'as-tu à faire de Laurent pour te montrer si empressé de le revoir ? S'il t'arrive encore d'en parler, tu dois t'attendre à être traité comme tu le mérites. » Isabeau, intimidé par une réponse si brusque, ne sachant à quoi attribuer cette menace, n'osa plus en demander des nouvelles. Cependant, elle ne cessait de penser à lui et de gémir sur la longueur de son absence. Elle l'appelait souvent pendant la nuit et le conjurait de venir essuyer les larmes que le chagrin d'en être séparé lui faisait répandre. Elle était inconsolable, mais elle n'osait se plaindre à personne. L'image de son amant ne la quittait pas un seul instant. Une nuit, après avoir longtemps soupiré avec larmes sur une absence aussi cruelle, elle s'endormit tout en lui faisant des reproches de son retardement à venir la consoler. Le sommeil ne se fut pas plutôt emparé de ses sens qu'elle crut voir Laurent en personne. Pâle, défait, vêtu d'habits déchirés et couvert de sang, et lui entendre dire ses propres mots. « Hélas, ma chère Isabeau, c'est vainement que tu m'appelles et que tu te tourmentes en me reprochant ma si longue absence. Apprends, ma chère amie, que je ne peux plus revenir te voir. Tes frères m'ont tué le dernier jour que tu me vis. » Et après lui avoir indiqué le lieu où il l'avait enterré, il disparut. La jeune fille, à son réveil, crut à son songe comme à un article de foi et se mit à pleurer amèrement. Lorsqu'elle fut levée, elle fut tentée d'en parler à ses frères. Et toute réflexion faite, elle n'en fit rien, de peur de les aigrir davantage. Elle résolut de se rendre seulement à l'endroit désigné pour voir si celui qui lui avait apparu était réellement mort. Ayant donc obtenu de ses frères la permission d'aller se promener hors de la ville avec son ancienne bonne, elle alla tout droit en ce lieu. Son premier soin est de chercher la terre qui paraissait le plus fraîchement remuée. Elle s'arrête et creuse dans l'endroit où elle aperçoit une petite éminence. Elle ne fouille pas longtemps sans trouver le corps de son cher amant, qui n'était encore ni corrompu ni défiguré. Et voit alors avec douleur son songe réalisé. Ce triste spectacle renouvela ses gémissements et ses larmes. Mais jugeant que ce n'était pas là un lieu à s'abandonner au chagrin, elle suspendit ses sanglots pour songer à ce qu'elle devait faire du corps de son amant. Elle l'eût enlevé, si elle l'eût pu, pour le faire enterrer honorablement. Dans l'impossibilité d'exécuter ce projet, elle lui coupa la tête avec son couteau, l'enveloppa d'un mouchoir, le mit dans le tablier de sa domestique et s'en retourna au logis après avoir recouvert de terre le reste du corps. Arrivée dans sa chambre, avec cette tête, elle la baisa 1000 fois et l'arrosa de ses larmes. Ne sachant comment la soustraire au regard de ses frères, elle s'avisa de la mettre dans un de ces grands vases où l'on plante de la marjolaine ou d'autres fleurs. Elle commença par l'envelopper d'un beau mouchoir de soie, la couvrit ensuite de terre et planta dessus un très beau basilic salernitain dans l'intention de ne l'arroser jamais que d'eau de rose ou d'eau de fleurs d'oranger ou de ses larmes. Elle ne se lassait point de regarder ce pot chéri qui renfermait les restes précieux de son cher Laurent. Elle pleurait quelquefois si abondamment que le basilic sur lequel elle se penchait en était inondé. Les soins continuels qu'elle en prenait, joints à la graisse que la terre recevait de cette tête, le firent croître à vue d'œil et le rendirent plus beau et plus odoriférant. Isabeau, au contraire, dépérissait tous les jours. Ses yeux étaient enfoncés, son visage maigre et décharné. En un mot, sa figure devint aussi hideuse qu'elle avait été agréable. Ses frères, surpris d'un si grand changement, apprirent d'une de leurs voisines, qui avait souvent aperçu de sa fenêtre cette amante infortunée, qu'elle ne cessait de gémir et de pleurer devant un vase qu'elle ne quittait presque point. Ils lui en firent des reproches. Et voyant qu'elle ne laissait pas de continuer, ils trouvèrent moyen de le lui dérober. La pauvre fille, ne le voyant plus, le demanda avec les plus vives instances. On ne crut pourtant pas devoir le lui rendre. Ce qui lui causa tant de douleur qu'elle tomba dangereusement malade. Elle ne fit que demander son vase durant sa maladie. Ses frères, surpris d'un attachement si singulier, voulurent voir ce qu'il y avait dedans. Ils ôtent la terre et trouvent une tête de mort. Elle n'était pas encore assez pourrie pour ne pas reconnaître, à ses cheveux crêpés, que c'était celle de Laurent. Il est aisé de se figurer leur étonnement. La peur qu'ils eurent que leur crime ne fût découvert les détermina à enterrer cette tête et à sortir promptement de Messine. Ils se retirèrent secrètement à Naples et laissèrent leur sœur Isabeau en proie à sa propre douleur. Cette pauvre fille, qui ne cessait de demander son vase, mourut bientôt après. Le jour de sa mort, la disparition de ses frères et quelques propos lâchés par la femme qui l'avait accompagnée dans l'endroit où Laurent avait été enterré rendirent la chose presque publique. Et l'on fit sur cette aventure une romance qu'on chante encore aujourd'hui. C'est celle qui commence ainsi. Quel est le mortel inhumain qui m'a volé sur ma fenêtre le basilic salernitain?
Thank you. was exposing myself to you. Little by little, I wanted to show you. I don't know how I would have felt in the future, but it felt good to me for now. This is how I remember it was working in the U.S. Why is it so different in France? How do you know so soon? How are you so sure? Wasn't this just the beginning? I liked thinking that I was slowly melting toward you. Was I alone in all of this? Didn't you like it too? Do you want to keep seeing each other? Do you think your feelings may change? Maybe I should have had more trust to reveal myself to you. Maybe I should have shown you my work. It's good. I'm good. You could have seen that. Told you how I made the choice to be alone a long time ago. But now I'm ready to be a partner in something bigger than me. Last summer I was in a similar situation. I was, what I thought, dating a guy, a researcher. We weren't in love, but I thought we were seeing where it could go, and it was nice. Then I went to the U.S. and came back, and he told me he now had a girlfriend. He was surprised that I thought there could be something between us. For him, it was just sex. This is after camping and hiking and hours of discovery. I was so hurt and so confused. It's good for me to know now. To cry out anything that I'd built up and be the person on the plane who sniffles and scrawls. But I have so many questions. About me, about you, about how this all works. Teach me for next time, please. Do you not date in France? Get to know one another slowly? When do you know? How do you know? Do you know? Because I don't. Is it persistence that pays off? Or should I ask a million questions to the next person who tries to kiss me to make sure that this doesn't happen again? Should I try the new strategy of opening up right away? Showing everything? Saying that I feel alone and that it's hard? That I write and draw my feelings into solid things. I don't know how much to say, how much is scary. I tried to keep distance with you, to give you air and oxygen, to live and think and let things develop. I didn't want to force anything. My hypnotherapist is helping me to trust men, and I thought it was working, but I guess that's not my only problem. Thank you.
Thank you.